I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Next Episode, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, évidemment, on débriefera, on analysera, on s'écharpera, mais tout ceci dans le respect du produit. Et aujourd'hui, on se bastonne, mais avec chic, choucroute, juste au corps et sur un ring, motherfucker, puisqu'on parle de la saison 2 de Glow, disponible sur Netflix. Et mes gorgeous ladies of wrestling sont donc Anaïs Bordage, bonjour.
Bonjour.
Et Mélanie Wanga, bonjour.
Salut.
Avant de débattre de cette saison 2, l'info du jour. Reboot un jour, reboot toujours. Après Daria, dont on vous parlait la semaine dernière, un autre monument des années 90 pourrait avoir une nouvelle jeunesse. Profite, série très, très, très dérangeante, centrée sur la vie de Jim, du même nom, un cadre supérieur chez Grayson & Grayson, une société qui brasse beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un garçon dévoré par l'ambition, très manipulateur et prêt à peu près tout pour gravir les échelons. Un anti-héros incarné à l'époque par Adrian Pasdar, qu'on a vu après dans Heroes, c'était Nathan Petrelli. Et c'est d'ailleurs le comédien en personne qui a parlé de l'éventualité de ce reboot. Alors Jim profite en 2018, bonne idée ou pas ?
Moi, les reboots, je commence vraiment non, à saturer.
Ouais.
Les idées de reboot, sinon, où sont-elles ?
Bon, profite, il y a quand même un truc particulier, c'est que ça a été arrêté.
Ça n'a pas été
poursuivi, parce que c'était peut-être un poil trop en avance.
Mm. Ouais, l'anti-héros sans scrupules. Ouais. Effectivement, c'était dans les fins des années 90, début des années 2000. C'était pas encore...
Sauf que maintenant, on a eu plein, quoi. Donc,
on a eu Trump. Pardon. Oups. Ouais. Non, vous êtes moyen motivé. Non,
franchement, c'est bon, les mecs qui manipulent le monde, détournent de l'argent, comme tu dis.
On veut
déjà
du série, on veut pas aller au bureau, ok ? C'est bon, c'est compris.
C'est clair.
Et bah du coup, à la bagarre.
1, 2, 3. Oh, fuck. C'est un film.
Ladies, exciting stuff. Feels a little different around here. And we got a few men in the gym, finally.
Woo! Habba habba.
All right, don't distract them. They have work to do.
I'm excited. Aren't you excited?
My costume still smells like beer and racism.
Was I supposed to wash these? You have a good break?
Yeah.
Just getting divorced.
It's complicated.
Usually you do a lot better job of keeping your weird friendship stuff out of the ring.
Just hope she can keep up.
D'après l'histoire presque vraie, ou vraie, de ce show des années 80 dans lequel des femmes se bastonnaient dans les télés, voici donc la deuxième salve d'aventure de Ruth, Debbie et de toutes les autres. Ces femmes ont-elles changé depuis la saison 1 ?
Ouais, moi je trouve qu'elles sont devenues
Mélanie.
Plus intéressantes. Non, j'avais aimé la saison 1 que j'avais regardée, binge regardée. Mais effectivement, cette saison 2, je trouve qu'elle est plus sûre d'elle-même, qu'elle sait mieux ce qu'elle veut dire, et les relations entre les personnages sont vachement mieux creusées, en fait, notamment entre Ruth et Debbie, où il y avait quand même un petit problème, puisque Ruth avait couché avec le mari de Debbie en début de saison 1.
Voilà.
Et donc leur amitié en avait pris un sérieux coup dans l'aile. Et ça avait jamais été vraiment... Enfin, c'était jamais vraiment expliqué, en fait, en saison 1. Elles s'évitaient l'une et l'autre. Et là, en saison 2, enfin, il y a un truc, quoi. Leur amitié commence à se reconstruire et ça va de l'avant, quoi. Et pareil, même pour tous les autres personnages qui avaient eu du mal, en fait, à émerger dans la première saison, là, on rentre vraiment dans ce côté sororité féminine, les filles qui travaillent ensemble sur un projet où elles sont toutes super motivées. Enfin, moi, ça m'a mis la pêche.
Anaïs.
Ouais, en fait, moi, c'est pareil. J'avais beaucoup aimé la saison 1, mais c'est vrai que ça mettait du temps à démarrer. Je pense parce que, en fait, au début, elles construisaient toutes leurs personnages, donc on savait pas exactement, en fait, à quoi s'attendre. Et là, on arrive, on sait très bien ce qu'elles sont et quels sont leurs personnages de base, donc elles peuvent partir de ça et vraiment développer. Et moi, ce que j'ai trouvé génial dans cette saison 2, c'est que ça parle beaucoup de carrière, en fait, de contrat, d'ambition. Il y a Debbie, par exemple, qui tout de suite, en fait, elle prend son son contrat, elle va voir un avocat et dit non, moi je veux de meilleures conditions que ça. Elle s'impose pour être productrice de l'émission et pas simple actrice. Enfin, j'ai trouvé ça ultra motivant de voir toutes ces femmes vraiment penser pas que à leur rôle d'actrice et de catcheuse, mais vraiment à ce que ça pouvait amener à leur carrière, quoi.
Moi, je trouve que le personnage de Debbie prend une ampleur pour le coup qui est vraiment vachement intéressante.
Mais qui reste complexe quand même, quoi. Qui reste
elle n'est pas complètement sympathique, ouais. Voilà, exactement. Mais en même temps, ce que le personnage devient est beaucoup plus intéressant, je trouve, que ce qu'ils ont fait dans la saison 1, en fait.
Ouais. Où c'était un peu l'antagoniste de Ruth.
Et en plus, où ça jouait, je trouve, assez mal sur le côté possible ami dans la vie, mais plus vraiment, et rival sur le ring. Il y avait un truc qui était assez mal exploité, et qui est du coup mieux dans la saison 2.
En tout cas, c'est mieux exploité, parce que dans la saison 2, ça s'exprime vraiment, en fait.
Oui, ça va à la confrontation beaucoup plus. Et en même temps, on n'arrive pas forcément à prendre parti de manière très claire, quoi. C'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'elles sont vraiment nuancées, que parfois on trouve Debbie géniale et parfois on se dit non, mais elle est vraiment vraiment dure. Elle est vraiment très très dure. Et en fait, tout ça fait avec un respect des personnages qui est vraiment très important et qu'il y avait déjà dans la saison 1. Aussi peut-être parce que c'est une série qui est créée, écrite et réalisée par des femmes. Et donc, en fait, déjà, moi, dans la saison 1, ce qui m'avait beaucoup frappée, c'était le « female gaze », entre guillemets, où on a quand même affaire à des catcheuses, donc qui jouent sur leur sexualité et sur leur physique dans le ring, qui sont vachement sexualisées dans leur costume, dans leur présentation d'anglo, mais pas dans la série elle-même, en fait. Et les réalisatrices, parce que c'était souvent des femmes, arriver vraiment à faire la différence entre la sexualisation dont elle faisait l'objet dans la série, mais pas dont les actrices elles-mêmes font l'objet. Je trouvais ça super bien fait.
Il y a un super taf, je trouve, sur les costumes, justement pour marquer cette différence.
Ils ont été upgradés en saison 2.
Non, mais puis la différence qui est entre le costume au civil, en fait, et le costume sur scène est vachement bien joué dans celle-là.
Il y a vraiment un côté, elles sont en survette, chaussettes dans la vie, et sur le ring, il y a des paillettes partout.
Et même quand elles sont filmées sur le ring, avec où vraiment elles font des positions, elles poussent des cris et tout, et c'est censé être vachement sexualisé, mais dans la manière dont elles sont filmées, il y a un respect et une distance où justement vraiment
il
n'y
a pas de zoom sur leurs fesses, quoi.
Dans n'importe quelle autre série, en fait, on en est venu à attendre ce genre de plan.
Des filles en juste au corps. Attendez, j'ai une super idée.
Exactement. Et là, en fait, ça n'arrive jamais, et c'est incroyable de voir ça. Et je me souviens dans la saison 1, il y avait même un épisode où elles se retrouvaient après un concert avec des mecs un peu, et les mecs étaient vachement plus sexualisés dans la manière dont leurs bras étaient filmés, tout ça, que les meufs dans tout le reste de la saison, en fait. Et là, on retrouve exactement cette
avec
même
la fête qu'elles font.
Elles
partent en chasse.
Où elles sont toujours respectées, même quand elles sont à poil. Même il y a de la nudité aussi dans la série. Et en fait, malgré ça, ça fait jamais vieux pervers dégueu, quoi.
Et leurs ambitions ont été revues à la hausse aussi à tous ces personnages féminins. Alors on le disait effectivement, Debbie essaye de prendre les rênes un peu de la production, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle en croque pas. Et Ruth a quelques velléités de esthétique, de réalisation. Donc c'est bien aussi de les voir s'émanciper encore avec un cran au-dessus.
C'est vraiment, moi j'ai vraiment aimé cette espèce de comme tu dis, d'émancipation. Il y a vraiment un côté empowerment, je déteste ce mot, mais il faut le dire parce que c'est ça. En gros, elles font avec ce qu'elles ont et elles essayent de construire quelque chose de mieux, quoi. Et moi, je voulais aussi juste souligner qu'il y a une des productrices qui est Jenji Kohan, il me semble, qui a réalisé et a créé Orange is the New Black. Et il y a ce même procédé, en fait, que je trouve assez intéressant, de mettre des filles ensemble et de partir du point de départ de la petite fille blanche innocente, et pour en fait nous ouvrir à un monde un peu incroyable de femmes fortes et de femmes drôles, de femmes un peu zinzin, quoi.
Et de femmes reloues, on peut le dire aussi, parce que le personnage de Ruth, qui est incarné par Alison Brie, est quand même pas loin d'être la nana la plus énervante qu'on ait vue dans une série, quand même.
Parce qu'elles sont toutes un peu reloues à un moment donné.
Elle a quand même un level de
C'est comme le petit chien qui veut toujours que tu lui donnes un os et jouer avec toi, quoi. Mais bon.
Ouais, mais en même temps, tu comprends. Enfin, c'est ça qui est vraiment bien fait, c'est que dès le départ, en fait, tu comprends qu'elle a de l'ambition, tu comprends qu'elle a des idées et qu'elle veut pas être vraiment cantonnée à son rôle d'actrice, et que elle a des idées vraiment pour la réalisation de l'émission, que même pour le moral de l'équipe, elle est ultra importante.
Ouais, c'est la cheerleader de l'équipe, en fait.
C'est ça, ouais. Et donc, même si c'est vrai qu'elle tape sur les nerfs de tout le monde, ils arrivent vraiment à montrer que ça a de la valeur, en fait, l'énergie qu'elle a et l'enthousiasme qu'elle a, et qu'elle arrive à en faire quelque chose de profond. professionnellement très intéressant, quoi.
Ouais, puis elle le dit en plus. Elle dit que c'est pas qu'un boulot pour elle. C'est un truc qui est vraiment important et qu'elle veut surtout pas le foutre.
Oui, parce qu'à la base, c'est une comédienne qui n'a pas de.
Comédienne ratée, on peut le dire.
C'est ça, qu'on voit quand même avec des ambitions très théâtre et qui finalement n'en fait pas. Oui. Mais non, ce que je trouve très fatigant, mais sans doute parce que je suis quelqu'un d'extrêmement cynique, c'est ce personnage super positif tout le temps. De toutes les situations, on fait un truc. Ouais, allez, c'est parti.
Oh là là, Charline.
Et du coup, j'aime beaucoup le contrepoint apporté par Marc Maron qui joue leur.
Ouais, qui est vraiment bien.
Leur réalisateur.
Ouais. Réalisateur, coach, mentor, on sait pas trop. Ouais. Très très drôle et qui bougonne tout le temps.
Oui, non, c'est ça. C'est marrant parce que, au final, c'est un peu un des seuls hommes de la série et on n'a tellement pas l'habitude de voir des séries avec.
Les hommes
un...
au second plan.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que, lui, c'est pareil. Il est très nuancé, quoi. Il a un côté un peu pervers, parfois un peu dégueu. En même temps, c'est une figure paternelle pour beaucoup de ces filles-là. Et d'ailleurs, ça devient complètement une figure paternelle puisqu'il y a sa fille qui vient s'installer chez lui dans la saison 2.
Justine.
Voilà, Justine. Donc, effectivement, c'est marrant de voir... après, il joue complètement son rôle de Marc Maron. Mais c'est intéressant de le voir prendre, pas le premier plan, de se mettre un peu en retrait par rapport à ce casting de meufs qui ont toutes des couleurs de peau différentes, des mensurations différentes, des personnalités différentes. Il y en a auxquelles on s'attache tout de suite, il y en a qui sont vraiment chiantes, d'orientation sexuelle différente. Enfin, c'est vraiment... tellement incroyable de voir ça dans une série et d'ailleurs Betty Gilpin avait fait un essai dans Glamour l'année dernière pour parler de ça, de son expérience, donc Betty Gilpin qui joue
Liberty Belle,
voilà, et qui est donc la blonde au gros sein, qui avait écrit un essai pour parler de ça, pour dire que elle se retrouvait pour la première fois sur un plateau géré par des femmes, et que toute sa vie elle avait bossé sur des plateaux où elle avait des mecs un peu creepy qui lui faisaient des commentaires salaces sur son physique et qu'elle voyait son physique limite comme un obstacle parce qu'elle était sexualisée tout le temps et que là c'était la première fois qu'elle pouvait utiliser son corps pour autre chose, pour du catch, pour quelque chose de vraiment physique, voilà, qui représente la force, la rage. Il y a des scènes dans la saison 2 où elle crie toute sa rage, c'est absolument jouissif en fait de voir ça, même à travers les yeux d'une blonde au gros sein. C'est assez novateur, quoi.
Mais alors Betty Gilpin et Alison Brie disaient la même chose sur le fait justement de travailler sur une série qui est quasiment gérée que par des femmes. Je les ai rencontrées il n'y a pas longtemps. Oui, oh, ça va, excusez-moi, c'est bon. Et Betty Gilpin disait que traditionnellement, quand on leur demandait de se préparer en tant que femme pour un film, on leur demandait de perdre du poids. Donc, et que depuis cette série, et donc depuis la saison 1, elle refuse de le faire. Elle a dit, moi maintenant, ma mission, et qui plus est pour cette série, c'est pas de perdre du poids, c'est de gagner du muscle, ce qui n'est pas exactement le même exercice. Et où elle dit, moi, plus jamais, en fait, je me laisserai assujettir à ce genre de... On sent que ça a été libérateur pour toutes les comédiennes qui sont...
C'est ça. Et ça se voit, elles ont, enfin, il y a des scènes en fait où on voit vraiment, enfin, elles font les cascades et on voit leurs muscles. Elles ont quand même des bras costauds. Enfin, même pour les plus menues d'entre elles, on voit qu'il y a eu une transformation physique, même depuis la saison 1, en fait, quoi.
Après, il y a un truc vis-à-vis de ce que tu dis et de l'industrie d'Hollywood. Je trouve que c'est très bien appliqué dans cette saison-là. C'est le côté, justement, un peu miroir de Me Too. Dans le sens, quand je dis ça, c'est le côté... parce que c'est marqué, en fait, l'opposition entre comment les hommes, donc Sam Sylvia, Sébastien Bache, Cadet TV, en fait, comment ils veulent utiliser les corps de ces femmes, en fait, ils veulent les sexualiser et tout, et elle voit le catch justement comme un moyen d'émancipation et le moyen de se dédier à quelque chose et de faire autre chose de son corps, donc ça je trouve que c'est vraiment fort, quoi.
Et du coup on peut le redire aussi, c'est une série qui est située dans les années 80 en fait, et les échos avec 2018 sont quand même
assez souvent quand même extrêmement
frappant, une scène d'agression sexuelle
dans une scène d'hôtel, quoi. Donc déjà dès qu'elle arrive en pensant aller à un dîner et qu'on lui dit non en fait ce sera dans la chambre, évidemment n'importe quelle personne en 2018 qui regarde cette scène,
c'est vraiment le procédé de Harvey Weinstein, quoi, qui
se
fait amener par un complice et puis en fait le mec se casse,
qui lui dit je vais prendre une douche,
Et
c'est en fait justement avec toute l'actualité qu'il y a eu ces derniers mois, on ressent d'autant plus violemment ce qu'elle est en train de vivre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reste nuancé même après, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui la soutiennent et qui disent c'est un viol clairement, ou en tout cas c'est une tentative de viol, et d'autres personnes qui lui disent mais non, c'est comme ça, t'étais vraiment conne, voilà, t'aurais dû rester là, tu nous as coûté notre émission en fait, enfin pourquoi tu fais ça, c'est ultra risqué. Et et même dans la manière dont le racisme de certains personnages de catch sont sont traités dans la série, c'est super intéressant. En fait, ils restent quand même nuancés et ils apportent un peu ce commentaire 2018 sur tout ça, avec des personnages qui disent « Ouais, mon personnage de Catch est quand même un peu raciste. »
Mais ce qu'on entendait dans la bande-annonce, je ne sais plus ce que c'était la phrase exactement, la punchline, costume, sans la transpiration et le racisme.
Ouais, voilà, puisqu'on a quand même une qui joue une talibane, une autre qui joue une femme noire qui vit
et qui essaye de changer.
La société,
mais voilà. J'avoue que moi, c'est un des aspects de la série où j'ai eu un peu de mal, en fait, parce que je comprends ce qu'ils ont voulu faire et qu'en fait ils remettent en question ces trucs là mais au final tu les vois quand même, et tout l'épisode sur Tintin May, qui joue donc la welfare queen, celle qui survit avec les aides de l'État,
qui est une vraie catcheuse dans la vraie vie,
et quand tout l'épisode où elle est avec son fils qui la regarde et tout, moi il y a vraiment quelque chose qui m'a travaillé, quoi, le côté vu de 2018, on remet ça en question, mais en même temps, on connaît l'atmosphère qu'il y a en ce moment dans le monde, tu vois. Mmh. Et donc, effectivement, il y a des gens qui voient les Noirs, voient les personnes arabes comme ça, quoi.
Comme
et
ça, ouais. Coup, après, en fait, c'est
voir
amené
encore des descriptions comme ça, c'est un peu chiant, quoi.
Mais du coup, au moins, enfin, je trouve que effectivement, c'est maladroit, parce que toute la série repose sur ces personnages-là qui sont censés nous divertir, et à la fois dont elle dit que ces personnages sont racistes. Mais en fait, j'étais contente qu'au moins, tu vois, ils essayent de...
Ouais, ils essayent d'en faire quelque chose, voilà, et qu'ils l'ignorent pas complètement.
Mais clairement, c'est très contradictoire pour la série, et je pense qu'ils sont un peu dans une impasse avec ça, ils peuvent pas en faire beaucoup plus.
Mais c'est le problème de la réalité des années 80.
C'est ça, puisque c'est adapté en plus d'un truc qui a existé vraiment et tout. Mais c'est vrai qu'en tant que personne de couleur, quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah, encore une fois, quoi. Mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire.
Après, je comprends aussi ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire, ouais, mais les choses changent. Et là, c'était en 80, on est en 2018. La marge d'évolution est quand même pas fofolle non plus, hein.
Ouais, c'est
quand
même.
Voilà. Et alors justement sur le côté, ça peut des fois être un peu paralysant. Alors je vais pas dire film en costume parce que c'est quand même que les années 80, quoique les épaulettes, tout ça. Mais je trouve ça relativement bien fait. Il y a pas le côté, regardez, elles sont déguisées. Sur la reconstitution des années 80, il y a un truc qui est assez intéressant, je trouve, qui est plutôt.
Ils ont réussi à être à mi-chemin entre le truc complètement improbable années 80 déguisement et le côté The Americans, où je trouvais que les cheveux étaient pas assez crêpés dans The Americans.
Ouais.
Alors là, ils sont au milieu, donc je suis contente.
Là, il y a un peu de choucroute.
Voilà,
un peu en choucrouterie.
C'est ça. Non, ils essayent de pareil, même avec les tubes des années 80, ils en font pas des caisses, ils t'en mettent un de temps en temps pour
c'est
te rappeler.
Bien dosé.
Voilà, c'est pas non plus années 80 toutes les 30 secondes. Quoi.
Mais alors moi, je veux dire que le personnage de Debbie me fait un peu penser à Melanie Griffith dans Working Girl.
J'ai eu très peur de Mélanie.
Non, il y a quelque chose comme ça, de ces personnages de ces années-là, avec l'ambition, le physique qui va avec et contre ce qu'elle a envie de faire.
Et qui veut avoir cet extérieur un peu froid pour se protéger aussi, quoi, qui essaye complètement de...
Ça, c'est quelque chose qu'elle fait bien, en fait, ce côté. Même quand elle est cassante, tu vois qu'au fond, en fait, elle n'est pas bien et qu'elle le fait vraiment pour devoir obtenir quelque chose ou pour se faire respecter. Et tout,
c'est
pas sa nature, en fait.
C'est ça. Et on le voit beaucoup mieux, je trouve, que dans la saison 1, où elle était juste parfois très blessante. Et voilà. Et là, tu comprends d'où ça vient. Et quand tu la vois justement batailler pour avoir un rôle plus important dans l'émission, tu comprends, quoi, qu'elle veut juste pas se faire écraser, quoi.
Et alors, si je vous demande une recommandation avec son juste au corps, avec son choucroute, avec son épaulette.
Tu veux commencer ou moi ?
Et je peux dire un truc ? J'interdis le point Buffy.
Okay.
C'est un défi, c'est le défi du jour, j'interdis le point Buffy.
Écoute, au moins tu as dit Buffy.
Voilà, si c'est ça.
T'as parlé de The Americans, je pense que c'est l'occasion d'en parler parce que la série vient de se finir. Et que,
je suis tellement triste.
Tellement. Et ça restera, je pense, la série sur les années 80. Qui m'a le plus marqué. Je me souviens quand la série a commencé, les gens trouvaient ça bizarre parce qu'on partait de Mad Men et donc les 60s étaient vachement plus glamour dans la représentation pop culturelle, on va dire. Et maintenant, on a Glow, on a eu Halt and Catch Fire, on a eu The Americans. Il y a eu toute un bouleversement, en fait, où on a les années 80 de plus en plus représentées parce que maintenant elles deviennent vintage, en fait, puisque le temps passe et qu'on est vieux.
C'était il y a 30 ans déjà.
Voilà, c'est ça. Et ouais, donc The Americans, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que je sais que vous ne l'avez pas vu, tout le monde en parle, mais personne regarde cette série.
Sinon, elle aurait duré plus longtemps.
Exactement. C'est donc sur deux agents du KGB qui vivent aux États-Unis en se faisant passer pour des Américains, qui ont deux enfants, qui ne se doutent pas du tout que leurs parents sont des agents du KGB. Et donc, c'est une série qui alterne entre missions d'espionnage, commentaires un peu politiques, historiques sur l'époque, et en même temps drame familial, puisque on voit ce couple et cette famille essayer de mener une vie à peu près normale alors que les parents sont espions et qu'ils doivent assassiner quelqu'un tous les trois
jours. Et que leur nouveau voisin est un agent du FBI.
Exactement. Et donc le final a été diffusé il y a quelques semaines. Ouais. Et c'était un des meilleurs finales de tous les temps.
C'est à rattraper, donc.
Vraiment, ouais, c'est indispensable. Surtout si vous vous intéressez aux années 80, vous ne pouvez pas passer à côté.
Moi, je les ai vécues, hein, donc je m'en dispense. Mélanie, une recommandation?
Eh ben, puisqu'on parle des années 80, j'ai une vision, j'ai une série qui a une vision tout à fait fantasmée des années 80, qui s'appelle The Carrie Diaries. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série. C'est en fait le préquel de Sex and the City. Donc c'est Carrie quand elle était au lycée et à la fac. Et
beaucoup de cheveux.
Beaucoup de cheveux, beaucoup de, tu sais, de, je sais pas comment on dit en français, leg warming, là, les
jambières.
De chaussettes, les jambières, rose fluo, le tutu, enfin tu vois, les années 80 de Madonna, quoi, tu vois, tu n'y crois pas une seconde.
Les bracelets en caoutchouc.
mais voilà, quoi, elle se fait embaucher pour bosser dans un magazine, donc c'est très glamour.
Comme nous toutes.
En stage et tout, tu vois.
Alors qu'elle a genre 16 ans, mais c'est
mais
pas grave.
Moi, je trouve que c'est une série assez sensible. Bon, c'est un bonbon sucré, hein, évidemment. Mais au final, je trouvais que c'était plutôt bien écrit, bien troussé. Les acteurs n'étaient pas mauvais, mais c'est vraiment une série. Tu regardes, je crois qu'il y a deux saisons, ça se regarde en une semaine. Mais tu passes un bon moment. Voilà.
Avant de nous quitter, toutes mes confuses, la semaine dernière, j'ai prêté une partie de la production de quoi parlons-nous la semaine dernière
de Sharp Objects
à Marty Noxon. Non, j'ai prêté une partie de la dame va
alors,
y arriver.
Tu
en fait,
as dit que Nurse Jackie.
Nurse Jackie, c'était Marty Noxon. Pas du tout, c'est Liz Flahive qui est donc qui a été une des showrunners de Glow. La dame est très fatiguée et très vieille également. Elle vous l'a dit, elle a vécu les années 80.
Ouais, elle
ça
se couchait.
Pas... va aller remettre ses épaulettes et on n'en parle plus. Merci beaucoup Mélanie Wanga, merci beaucoup
merci.
Anaïs Bordage. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
Ce côté-là poussé à l'extrême, j'ai trouvé que ça marchait très très bien.
Chaque jeudi à 19h, la pop culture de nos ciné s'installe sur Séance Radio.
Sa façon de faire, pardon, est totalement unique. Donc le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand-chose.
Nos ciné parle fort de cinéma sur Séance Radio, en partenariat avec Binge Audio.
Et depuis quelques films, c'est vraiment c'est n'importe quoi. C'est gag sur gag.
Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.